De retour à l'émission État de splendeur, vous êtes en compagnie de Patrick Assikian sur les ondes de Radio Centre-Ville. Et puis, nous sommes en train d'explorer un projet assez colossal qui a été amené par un individu, une résidente de Sainte-Agathe-des-Monts qui s'appelle Michel Lalande-Derry, qui a fondé la corporation du chemin de fer Trans-Québec Express. Il y a 10 ans, cette dame nous arrivait avec un projet de faire un chemin de fer qui fait le tour du Québec. Alors, tout le monde, évidemment, rit d'elle. Et pourtant, elle a persisté dans sa démarche. Et puis, étant donné que c'est pas une simple rêveuse, mais bien quelqu'un qui a roulé sa bosse en Arabie Saoudite à travailler sur certains projets dans lesquels je ne rentrerai point, elle a quand même continué à travailler sur ce projet. Elle a présenté ce projet à différents membres influents du monde ferroviaire au Québec. Et puis, elle a su comment faire avancer le dossier pour le rendre très crédible aujourd'hui. Alors, évidemment, il y a un site de Trans-Québec Express. Vous allez pouvoir trouver le lien si vous vérifiez sur Google ou si vous allez sur le blog de étatdusplendeur.com. Et puis, cette dame propose de faire un chemin de fer de 9500 km qui parcourt toutes les régions du Québec et qui coûtera plusieurs milliards de dollars, mais dont l'investissement se trouve justifié par le développement régional et puis par l'activité économique qui va en découler suite à la construction du chemin de fer, mais aussi des locomotives et puis des wagons, qui va quand même favoriser les métiers ferroviaires au Québec. Cette dame a tout un plan qui, bon, je rentrerai pas dans les détails financiers du projet, mais pour vous donner une idée de par où passe le projet de Trans-Québec Express, c'est composé de plusieurs lignes. Il y a 5 lignes principales, 5 ou 6 selon certains. Bon, la ligne principale est en fait le réseau de chemin de fer tel qu'il est actuellement de Via Rail. La première ligne s'appelle l'Intercité. L'Intercité, c'est une ligne qui rejoint Québec-Montréal ainsi que Sherbrooke-Gatineau. Ça, c'est des destinations qui sont déjà présentement desservies par Via Rail. Mais par contre, dès qu'on veut aller un peu plus loin, comme en Côte-Nord, c'est impossible, ou si on veut aller... la ligne qui se rend la plus au nord, c'est dessert Sainte-Terre. Et Sainte-Terre qui est à 2 heures de Rouyn-Noranda, pourtant une ville pas mal plus importante que Sainte-Terre. C'est des lignes qui ont été construites dans le temps pour se rendre souvent à des clubs de chasse privés américains qui étaient fort prisés. Donc, c'était pas nécessairement un chemin de fer qui a été conçu pour être structurant ou pour favoriser l'occupation du territoire du Québec, mais plutôt pour desservir certains lieux précis de clubs de chasse et de pêche internationales. Donc, ou de réputation internationale, puisqu'on en avait quand même plusieurs. On en a d'ailleurs quand même quelques-uns, mais la mouvance a été changée. C'est plutôt des pourvoiries que des clubs de chasse prestigieux. Il y a une ligne de chemin de fer qui se rend jusqu'à la Malbaie maintenant, mais c'est essentiellement un chemin de fer touristique. Il y a très peu de gens qui s'en servent pour se rendre à la Malbaie. Quoi qu'il y en a certains téméraires qui le font. Donc, la première ligne, c'est l'Intercité, ça c'est Québec-Montréal-Sherbrooke-Gatineau. Ça existe déjà. La deuxième ligne, c'est le Gaspé. C'est une ligne qui fait le tour de la Gaspésie. Il y a déjà un train qui se rend à Gaspésie via rail. Mais évidemment, ça va tout le temps être via rail si c'est un train de passagers. Quoique, il y a certains trains touristiques privés comme la ligne qui se rend jusqu'à la Malbaie ou la ligne qui fait Sherbrooke-Orford. Ça, c'est des lignes touristiques, mais qui pourraient être intégrées au réseau. Il y a une autre ligne qui est projetée qui se rend jusqu'à Blanc-Sablon. Ça, c'est fort prodigieux puisqu'on n'a même pas de route qui se rend jusqu'à Blanc-Sablon pour l'instant. Les résidents de la Côte-Nord, comme je le disais à l'émission précédente la semaine passée, réclament haut et fort la construction de la route 138, le prolongement de la route 138 de Natashquan jusqu'à Blanc-Sablon. Malheureusement, malgré les annonces gouvernementales disant qu'on allait investir dans la construction de cette route, il n'y a toujours pas de pont qui va se faire sur la rivière Natashquan pour relier les tronçons routiers qui vont être construits en basse côte nord. C'est-à-dire qu'il va y avoir des tronçons routiers, mais ça va être relié à Terre-Neuve. Là. Ça ne sera pas relié au reste du Québec. Ce qui fait de sorte que bon nombre de personnes commencent à avoir un sentiment d'appartenance qui est plus terre-neuvien, et sans doute avec raison, puisqu'ils sont complètement coupés du reste du Québec. Tout ça pour dire qu'il y aurait une ligne qui se rend jusqu'à Blanc-Sablon et qui revient en passant par le Labrador, la frontière du Labrador. Mais Mme Lalande-Derry veut faire passer le train par la frontière, qui est en fait la ligne de partage des eaux, qui est une frontière plus au nord, tandis que Terre-Neuve, veut passer par, une autre frontière qui donne plus de territoire au Labrador. Il y a comme un certain litige entre le Québec et Terre-Neuve pour la frontière sud du Labrador. Et puis, Madame veut faire passer, le train le long de la frontière, que le Québec veut avoir. Et puis, bon, il pourrait avoir un certain litige là-bas. C'est tout un dossier qui n'est absolument pas clos. Malheureusement, je pense que le Québec a renoncé à ce morceau de territoire labradorien récemment. C'est dommage, mais là, bon, je peux comprendre, on n'est pas pour rentrer dans des guerres territoriales. Mais bon, dans tous les cas, il y a une ligne qui revient le long de la frontière avec le Labrador. Il y a une autre ligne qui prend le chemin de fer actuel, parce qu'il y a une ligne qui relie Sept-Îles à Schefferville, qui est quand même 12 heures au nord, là. Et on ferait prolonger cette ligne-là jusqu'à Coudjouac, et qui ferait tout le Nunavik et qui reviendrait par la ligne qui s'appelle le Radisson, qui va jusqu'à la ville du même nom, qui est juste à côté de Chisasibi, un des chefs-lieux cris dans la Jamésie. Et puis la ligne redescendrait à travers l'Abitibi et le Témiscamingue jusqu'à Gatineau pour faire un cercle complet à travers le Québec. Évidemment, c'est pas demain la veille qu'on va pouvoir s'acheter des billets pour faire le tour du Québec, mais Madame Lalande-Derry est quand même très téméraire. Madame a, contre vents et marées d'ailleurs, hein, elle a écrit un livre, elle a été consultée et engagée même, ou faire participer au projet d'équipe. Plusieurs personnes issues du monde ferroviaire au Québec. Et puis, le 21 mars dernier, elle a eu une audience auprès du ministère des Transports du Québec. Alors, il y a de quoi féliciter Mme Michèle Lalande-Derry. Là-bas, elle était présente avec des représentants de Solidarité Rurale, qui est un organisme très important que peu de gens connaissent. Solidarité Rurale, qui est tout simplement un organisme qui s'occupe de la diversification des activités en milieu rural et pour s'assurer une certaine pérennité des communautés rurales dans le Québec. Il y avait un représentant de cet organisme, il y avait Roméo Bouchard aussi, qui est le fondateur de l'Union paysanne. Il y avait un représentant du Centre de formation des métiers ferroviaires au Québec. Et il y avait le président du groupe TRAC, le groupe qui s'occupe du transport sur rail au Québec. Et puis, il y avait un représentant en fait, le chef de Malyotenam, un chef innu qui est un des propriétaires de la ligne de chemin de fer entre Sept-Îles et Schefferville. Ils étaient tous là pour essayer de justement de favoriser ce projet de Trans-Québec Express, puisque si jamais on y croit, il faut quand même mettre des bouchées doubles et commencer à travailler dessus. Et étant donné que ces individus croient dur comme fer à ce projet, malgré les milliards que ça coûterait, ils pensent qu'on devrait commencer dès maintenant à construire ce chemin de fer, mais par petits tronçons, ce qui limiterait l'investissement pécunier des contribuables. Et donc, malheureusement, je n'ai pas son nom, qui était représentant des communautés innues de Ouachat et Manyotenam. Il était tout à fait pour justement la construction de ce chemin de fer, puisque les communautés innues et les communautés inuites ou les communautés cries de toutes les communautés éloignées, que ce soit des francophones, des autochtones, des anglophones, peu importe, ils ont besoin d'avoir un lien terrestre au reste de la civilisation. C'est pour briser le désenclavement. Et puis, ce serait fort favorable au niveau économique, mais aussi au niveau culturel et même socio-affectif de ces communautés-là, puisqu'on connaît les problèmes au niveau des problèmes de consommation et puis de violence qui se retrouvent dans ces lieux-là. Et donc, cet individu est propriétaire de la ligne de chemin de fer, bien, un des propriétaires de la ligne de chemin de fer entre Sept-Îles et Schefferville. Et puis, suite à la présentation de Mme Lalande-Derry à l'Assemblée nationale au ministère des Transports, le ministère des Transports a pris acte de cette présentation-là et puis s'est engagé à, d'ici au mois d'octobre, faire une enquête sur la viabilité de l'extension de la ligne de chemin de fer entre Sept-Îles et Schefferville pour l'extensionner jusqu'à Coudjouac. Alors, je ne sais pas si vous êtes bon en géographie du Québec, mais Coudjouac, c'est une des villes les plus nordiques du Québec, directement à proximité de la baie d'Ungava. Et puis, c'est de là qu'étaient partis les Naskapis autrefois, sont descendus à pied de Coudjouac jusqu'à Schefferville pour se rapprocher de cette nouvelle ville qui s'est faite fondée dans les années 50. Coudjouac est quand même une ville... Dans le contexte nordique, là, c'est relativement important quand même, Coudjouac. Et puis donc, de faire avancer la ligne de chemin de fer jusqu'à cette zone-là ferait le bonheur de plusieurs, là, autant dans le sud que dans le nord. Puisque là, si le chemin de fer se rend jusqu'à Coudjouac, c'est bon non seulement pour Coudjouac, mais pour les communautés environnantes. Et puis donc, suite à cette présentation... la Corporation du chemin de fer Trans-Québec Express a eu un engagement de la part du ministère du Transport. Et puis en octobre, ils vont déposer les résultats de leur enquête, à savoir la viabilité, la possibilité prochaine d'extensionner le chemin de fer de Sept-Îles-Schefferville jusqu'à Coudjouac. Ça veut dire que tout le côté est du Québec, c'est-à-dire tout le côté est du Québec du chemin de fer Trans-Québec Express serait déjà fait. C'est quand même un bon tronçon, là. Et puis, je pense qu'en collaborant ensemble, les communautés autochtones, francophones, peu importe les communautés, s'ils travaillent ensemble, ils vont pouvoir réaliser ce chemin de fer. Ça va pouvoir être une histoire fort favorable. Et puis, je voulais donc saluer Mme Lalande-Derry pour sa témérité et puis sa ténacité dans la présentation et la construction de son projet de chemin de fer Trans-Québec Express, qui va un jour, peut-être, si possible... faire le tour du Québec. On va aller en pause musicale, mettre une pièce qui est en honneur de Mme Lalande-Derry, une pièce qui s'appelle Elephant Stone d'un groupe anglais de Manchester qui s'appelle les Stone Roses. Et là-dedans, la pièce dit que « There is a hole in my dreams », il y a un trou dans mes rêves. Et je vous conjure, Mme Lalande-Derry, ne laissez pas se percer votre rêve de Trans-Québec Express, colmater les failles, et puis vous allez arriver à faire avancer le monde ferroviaire au Québec. Donc, Elephant Stone, une pièce des Stone Roses.
dreams, or so it seems, yet you're nothing to me.
C'était les Stone Roses, un groupe de Manchester, une ville, une autre ville justement. On parlait de Rouyn-Noranda et puis du léger boom musical qu'il y a là-bas en ce moment. Eh bien, Manchester a connu un colossal boom musical au courant des années 80, la fin des années 80, début 90. Mais nous allons revenir à nos moutons et puis vous écoutez l'émission État de splendeur, du moins ce qu'il en reste. Il reste à peu près 9 minutes. Et puis, nous allons parler du lait. Puisque c'est un sujet qui convient très bien au Québec. Malheureusement, étant donné le très peu de temps qui nous reste, ce serait très peu de respect pour le lait que de dire qu'on va faire une émission exhaustive sur le sujet, mais on va juste lancer quelques pistes de réflexion, puisque le lait est un dossier assez important et puis très peu de personnes le soupçonnent. Au Québec, on a un des meilleurs laits au monde. Au niveau qualitatif, là, on a vraiment, sans aucun chauvinisme, là, on a vraiment un des meilleurs laits au monde. Mais malheureusement, on a aussi un des laits les plus chers au monde. Ça, c'est grâce au fameux système de quotas de lait. C'est-à-dire qu'on est payé à la production. Les producteurs vont acheter un quota de lait qui vont leur accorder un droit de produire tant de litres de lait. Ils ne peuvent pas en produire plus que ça. Mais par contre, ça leur assure de vendre tant de litres de lait par mois ou par semaine, peu importe. Ça leur assure aussi d'avoir un prix fixe. Alors, c'est un très bon système, surtout à l'époque où ça a été inventé, les laiteries étaient plus ou moins toutes similaires, de la même grandeur et tout ça. Mais aujourd'hui, on se retrouve avec une grande disparité. Il y a des très grands producteurs laitiers et il y a des très petits producteurs laitiers. Malheureusement, les quotas de lait ont des prix assez prohibitifs. Et puis, c'est souvent, étant donné la disparité entre les tailles et les activités des laiteries, le système de quotas de lait peut parfois ne pas convenir et vraiment nuire à certains producteurs. Ça nuit surtout aux producteurs de fromage fermier. Un fromage fermier, c'est un fromage qui est fait avec le lait d'un seul troupeau de vaches sur la ferme où habitent les vaches. Et puis, dans un cas comme ça, c'est évidemment, des fromageries fermières sont souvent des petites fromageries qui ont un petit troupeau de lait, un petit troupeau de vaches qui donne une petite quantité de lait. Ils ont donc un petit quota de lait. Mais souvent, les vaches produisent plus parce qu'une vache, c'est pas comme « OK, le quota est atteint, on arrête de produire. » La vache continue quand même à produire. On ne peut pas l'arrêter. Et donc, tout le lait qui sort en surplus doit être jeté, détruit, ce qui est quand même fort triste. Il y a eu d'ailleurs l'histoire très connue de certain Luc Mailloux. C'est le frère d'un certain psychanalyste ou psychothérapeute malfamé qui s'appelle le Doc Mailloux. Je crois que certains le connaissent. Eh bien, son frère est un prodigieux pionnier dans le monde des fromages au Québec. Dès les années 70, il sortait le premier fromage fermier au lait cru québécois qui s'appelait le Chevalier Mailloux. Ben, il a sorti le Chevalier Mailloux et le Saint-Basile de Portneuf qui était un type Munster qui était vraiment... Fort favorable. C'était savoureux comme ça se peut pas comme fromage. Évidemment, c'est relatif, mais je trouve, et bon nombre de connaisseurs trouvent que c'était un des meilleurs fromages qu'on a fait au Québec. Et bien, souvent, il était dans les médias, M. Maillot, puisqu'il disait que le système de quotas de lait convenait pas aux fromageries fermières, puisque elles vont transformer leur propre production. Et puis lui, il faut qu'il vende son lait à la fédération pour le racheter, pour faire son fromage ensuite. Et puis, il y avait toutes sortes de disparités qui faisaient de sorte que lui, étant pas un grand producteur laitier, ne pouvait pas profiter de la prospérité générée par le système de quotas de lait pour les grands producteurs. C'est-à-dire que lui avait un très petit quota. Dès qu'il dépassait, son lait était obligé de le jeter. Il s'est fait photographier plusieurs fois dans les journaux de Québec, puisqu'il était dans la région de Québec, à Saint-Basile-de-Portneuf, en train de jeter son lait, des litres et des litres et des litres de lait aux poubelles. Et puis, il n'a pas non plus le droit de prendre ce lait-là pour en faire du fromage à cause de ce système de quotas de lait. Mais évidemment, bon, c'est bon, on ne veut pas que le marché soit envahi d'une quantité excessive de lait, mais les producteurs fermiers devraient bénéficier d'une petite brèche dans ce système, puisque eux vont transformer eux-mêmes leur propre lait. Alors, c'est leur problème de découler leur stock de fromage. Mais bon, il y avait des fromageries mobiles qui ont été inventées suite à ce problème-là. Toutes les fermes qui avaient plein de lait à jeter, ils trouvaient ça très triste de jeter leur lait. Par conséquent, certains fromagers improvisés ont loué des roulottes ou se sont achetés des roulottes et allaient dans ferme par ferme prendre le lait de ces fermiers-là et puis transformer ce lait-là en vulgaire cheddar, là, puisque le cheddar, c'est vraiment un des fromages les plus faciles à faire. C'est aussi un des plus gras en passant, mais ça, c'est pour une autre émission. Ils transformaient le surplus du lait de différentes fermes en fromage et puis ils redonnaient à la famille, moyennant un certain dédommagement pécunier ou je ne sais quoi. Malheureusement, ces fromageries mobiles, c'est complètement illégal, puisque le lait qui est produit en surplus des quotas de lait, il doit être détruit. On n'a pas le droit de le donner aux pauvres, là. C'est illégal. Donc, les fromageries mobiles qui transformaient le cheddar, le surplus de lait des fermiers en cheddar, durent fermés. Il y a eu une certaine action du MAPAC qui a fait de sorte que les fromageries mobiles se sont fait toutes répertoriées et fermées. On peut comprendre, puisqu'on veut que le fromage soit transformé dans des conditions hygiéniques, évidemment. Là, ce serait normal que ce soit des fromageries mobiles qui soient un peu contrôlées. Alors, on peut comprendre certaines mouvances de vouloir les régulariser, mais par contre, aujourd'hui, il n'y a presque plus de fromagerie mobile. Ça se voulait un exercice anti-gaspillage, et maintenant, ça s'est fait complètement, ou presque complètement, bannir. C'est quand même assez dommage. Je suis sûr qu'il y a moyen de régulariser la situation des fromageries mobiles, puisque c'est une solution. Le fromage qu'on en fait peut être, je ne sais pas, donné à des soupes populaires, ou il y a plusieurs choses qu'on peut faire avec. Et puis, bon, c'est un problème. Un autre problème qui est relatif, qui est lié au lait cru, qui est lié au lait au Québec, c'est le lait cru. Malheureusement, pour l'instant, on n'a pas le droit de faire goûter aux voisins le lait de tout frais du pied de la vache à nos voisins, ou même si on reçoit des écoliers sur la ferme, on ne peut pas même faire goûter une cuillerée de lait cru à des étudiants, étant donné qu'ils peuvent tous mourir, évidemment, même s'il n'y a eu aucun mort à ce sujet. Donc, il y a... Ce système est un peu désolant, puisqu'à l'époque, tout le monde allait chercher son lait tout frais de la ferme. Surtout si on est voisin d'une ferme laitière, on allait chercher son lait avec la crème sur le dessus, un lait qui n'a pas été pasteurisé, mais qui est frais, donc hygiénique. Bon, malheureusement, c'est impossible. Et puis, il y a certains qui se sont penchés sur le cas. Et puis, il y a un cas que je nommerai pas, qui ont trouvé une solution à ça, c'est-à-dire qu'ils ont vendu... un fermier qui a une vache peut pas faire goûter le lait cru à ses voisins, mais par contre, il a vendu la vache à ses voisins. Il a vendu un jarret à un voisin, un autre jarret à un autre voisin. Il a vendu l'épaule à un voisin d'en avant, et puis une autre épaule à un autre voisin. Il a vendu des parties de vache à différents voisins. Donc, étant donné que les voisins étaient tous propriétaires propriétaires de la vache, ils ont maintenant légalement le droit de goûter à du lait cru tout frais du pied de la vache. Je dois donc saluer cette initiative fort ingénieuse de la part d'habitants ruraux à proximité de fermes laitières. Alors, on va explorer ce dossier-là plus en profondeur aux émissions futures. Il va y avoir un reportage, d'ailleurs, vidéo sur la fromagerie au Gré des Champs, qui est une fort prodigieuse fromagerie fermière au Québec, dès le 17 septembre sur etatdusplendeur.com. Vous pourrez aller vérifier ça. Et puis sinon, la semaine prochaine, c'est une émission entière dédiée à l'histoire du vin au Québec, en honneur de la fête des vendanges de Magog-Orford. On va se laisser, c'est tout pour tout de suite, à l'émission État du Splendeur. Vous pouvez toujours aller laisser vos commentaires sur le site web etatdusplendeur.com. Et puis, on se dit à la semaine prochaine et on se laisse avec l'émission Plaisir thématique tout de suite. Donc, bonne semaine!
Montre-toi donc, diplodocus babois, mégalomane, flibustieux!
Toutes les tragédies que tu as vécues, la femme que tu aimais, traquée jusqu'à la mort, tout ça, je peux le faire disparaître. Je crée une unité spéciale, aux pouvoirs spéciaux. Rejoins-moi et tu auras ta vengeance.
Les mutants, non, je ne les déteste pas, mais il faut les contrôler.
Au Pays des Bulles, toute l'actualité de la bande dessinée, le lundi, dès 13h.
Descends donc, Cro-Magnon, macrocéphale, ectoplasme!
L'actualité socio-culturelle et politique vous intéresse.
Alors prenez rendez-vous avec l'émission Montréal sans accent le mardi de 16h à 17h30 sur 102,3 FM Radio Centre-Ville.
Un beau choix musical fait aussi partie de cette émission.
En Afrique de l'Est, 11 millions de personnes subissent les conséquences de la pire sécheresse des 60 dernières années. Les populations manquent d'eau et de nourriture, les enfants et les personnes âgées luttent pour leur survie, et la situation ne fait que s'aggraver de jour en jour. Les membres de la coalition humanitaire, Aide à l'enfance, CARE, Oxfam et Plan, sont déjà sur le terrain pour porter secours à la population. Votre don permettra d'acheminer de toute urgence de la nourriture, de l'eau potable et des médicaments aux familles les plus vulnérables. Faites un don en ligne à coalitionhumanitaire.ca ou appelez le 1-800-464-9154. Agissez maintenant. Coalition humanitaire, ensemble, nous sauvons plus de vies.
En matière de musique, Radio Centre-Ville vous fait voyager aux quatre coins du monde. Radio Centre-Ville.